Bonjour à tous, chronique pour la paix. Ce soir se posent plusieurs questions. Alors que la pause estivale très longue de la Knesset, d'ailleurs très contestée, est imminente, que les négociations pour la libération des otages sont interrompues suite à l'élimination, réussie ou non, de Mohamed Diff, celui qui dirige la branche militaire du Hamas, le mouvement de contestation en Israël est-il dans l'impasse ? Est-ce que c'est un mouvement qui, contrairement à l'impression qu'il donne d'ailleurs, est en fait à l'arrêt ? Nous sommes en ligne à Tel Aviv avec David Benishai. Bonsoir David.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur d'un mouvement qui s'appelle les Démocrates Mobilisés, qui regroupe des francophones israéliens engagés depuis le début de la contestation contre la réforme judiciaire, puis depuis le 7 octobre pour le retour des otages et la tenue d'élections anticipées. Alors d'abord, par exemple, Mohamed Diff, c'est pas de nature à faire avancer les négociations, mais en même temps, c'est quand même l'ennemi numéro un, quoi. Vous, votre mouvement...
Alors oui. Bien sûr. Je pense qu'il y a des avis divergents dans le mouvement de contestation. Me concernant, et je peux parler au nom d'un nombre important des membres du collectif, on pense qu'effectivement c'est une bonne chose, mais ça reste à la fois un acte militaire et un acte politique. Et il semblerait que ce soit aussi une pression supplémentaire. Il y a cette pression-là, il y a une autre pression qui vient du Hamas contre Sinoir aujourd'hui. Donc, il semblerait que l'étau se referme et que ça participe au moins du renforcement des négociations, peut-être pas à ce stade-là, mais par la suite, je pense. Oui.
Alors, paradoxalement, il y a effectivement une idée qui dit que avoir fait sauter le verrou Mohamed Diff, c'est paradoxal, parce qu'en fait, Mohamed Diff sait où sont les otages. Mohamed Diff est celui qui donne les vraies réponses, plus que Sinoir, en négociation. Mais paradoxalement, la disparition, ce verrou qui saute, permet aussi à Khaled Meshal et à Ismaël Haniyeh d'être plus sur leur position à eux qu'on connaît et qui sont celles d'un compromis. Donc c'est intéressant quand même.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, alors on va voir. Moi, ma crainte, si vous voulez, ma crainte, c'est que c'est moins du côté du Hamas qui évidemment met le pied sur le frein actuellement, c'est plus du côté du Premier ministre qui, comme le disent un certain nombre de commentateurs politiques, c'est qu'effectivement il tirerait la négociation jusqu'au 24 à son arrivée au Congrès aux États-Unis. Donc ça c'est ce que disent nombre de commentateurs. Et puis effectivement aussi le fait qu'il tire dans le temps pour arriver à une situation où on aura la clôture de la session parlementaire, ce qui lui permettra d'avoir plus de marge de manœuvre et probablement aussi un mouvement de contestation un petit peu ralenti.
Alors, les services de renseignement égyptiens vont plus loin que vous et ils disent qu'on n'aura rien avant les élections américaines. Et les élections américaines, c'est en novembre. Donc, c'est très loin.
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a... oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas regarder juste le Hamas et Gaza. Il faut aussi regarder le Nord. Et je pense qu'il y a des pressions au sein de l'armée et sur le gouvernement pour une blitzkrieg avec une guerre éclair avec le Hezbollah et éventuellement l'Iran, bien sûr. Donc, beaucoup de commentateurs aujourd'hui prédisent une opération militaire de grande envergure et ça ne peut pas être envisagé, ça ne peut pas être mené tant qu'on a un nombre extrêmement important de bataillons à Gaza. Il faut que ce soit calmé là-bas. Et on ne peut pas... je ne suis pas certain que la négociation soit liée aux élections américaines, bien sûr. Tout ce qui se passe est lié au maintien, à la volonté politique de se maintenir en place, même si je crois personnellement qu'on ne survit pas au 7 octobre, quel que soit le génie politique, on ne survit pas au 7 octobre, mais quoi qu'il en soit, c'est l'illusion dans laquelle vit Netanyahou. Mais je pense que concernant le Sud, concernant Gaza, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il va profiter de la longue clôture de la session parlementaire pour attaquer au nord.
Alors, Benjamin Netanyahou va probablement se présenter devant le public le jour des élections en disant deux choses. Le seul qui tient face aux Américains, c'est moi. Et le seul qui vous garantit qu'il n'y aura pas d'État palestinien, ce qui pour vous est une catastrophe, David Benishai. Mais lui, il va dire comme ça. Il va dire, le seul qui tient face aux Américains, c'est moi. Personne d'autre peut le faire. Si c'était n'importe quel autre leader politique, la guerre se serait terminée depuis longtemps, et d'ailleurs vous allez nous dire si c'est ce que vous souhaitez d'ailleurs. Et deuxièmement, je suis le seul qui vous garantit qu'il n'y aura pas d'État palestinien, parce que tous les autres accepteront cet État, et vous aurez une menace à vos côtés. Alors, voilà un peu, si vous voulez, la configuration de comment se présentent les futures élections. Comment est-ce que vous allez répondre à ça ?
Non, évidemment, la réponse, elle est très claire, elle est lapidaire. Quelqu'un qui mène pendant 15 ans le pays avec une politique et une conceptia, c'est-à-dire une certaine vision d'un Hamas rasséréné, n'a pas fonctionné et a entraîné le 7 octobre, ça c'est la première chose. Mais ce qu'il faut bien voir, la deuxième chose, c'est je ne suis pas certain que les Israéliens aient envie, parce que si on dit on tient tête aux Américains, ça veut dire qu'on ne va pas être dans la collaboration avec les Saoudiens, les Américains, les Jordaniens, les Égyptiens, pour qu'il y ait une force d'intervention pour les affaires évidemment administratives, civiles, et la police à minima, Israël ne laissera pas ses gamins là-bas. Israël ne continuera pas à occuper Gaza. Israël. Donc si vous voulez dire ça, dire je tiens tête aux Américains, déjà premièrement, on ne sait pas très bien comment il tiendra tête à Trump, mais si tant est qu'il soit élu, mais c'est pas un argument qui est entendable, parce que les projections, c'est-à-dire les conséquences de « il n'y aura pas d'État palestinien », c'est finalement de se retrouver à occuper Gaza dans les conditions qu'on connaît, qu'on imagine encore pire, de ce qui se passe actuellement en Judée-Samarie avec des attentats pratiquement tous les jours. Les Israéliens ne veulent pas ça. Leurs gamins, trop de soldats sont morts et ils n'ont pas envie d'envoyer leurs gamins au casse-pipe à Gaza, ce qu'on a déjà vécu avant 2006, le retrait. Donc je ne crois pas que ce soit un argument et je ne crois pas que les Israéliens ont envie.
On entend aussi autre chose. On entend aussi beaucoup de soldats qui disent on vous prévient, on ne partira pas comme ça. Si on a fait tout ça, si on a eu autant de copains morts pour finalement revenir à la situation ante, on n'est pas d'accord. Moi, je le lis beaucoup.
Oui, oui, bien sûr. Mais il y a une différence à dire. On est là dans le feu de l'action. On est là dans une stratégie militaire et une stratégie politique. Évidemment qu'on ne peut pas dire autre chose. Et même moi, je le dis. Il faut qu'on laisse le territoire le plus sûr possible. C'est-à-dire que de continuer, même s'il faut mentir, même s'il faut casser un accord, de continuer la guerre et d'éradiquer les terroristes et de casser définitivement l'infrastructure militaire du Hamas, vous ne connaissez pas beaucoup de gens en Israël qui soient contre ça, même les grands chancres de la paix. Par contre, il y a une différence entre dire qu'on fait les choses bien et correctement, c'est-à-dire qu'on a une vraie stratégie à la fois militaire et politique, et d'ailleurs elles sont liées toutes les deux, et dire ben, on va occuper pendant les 15, 20, 30 prochaines années Gaza. C'est très différent. Mais évidemment que les soldats disent ça. Évidemment que les parents pensent ça. Mais aujourd'hui, le gros problème qu'on a, au même moment, simultanément à cette affirmation, il y a c'est quoi le plan pour demain ? C'est quoi le jour d'après ? On ne peut pas faire toutes sortes d'élucubrations si on n'a pas un État d'Israël qui dit voilà, le jour d'après, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Et sans ça, c'est beaucoup de conjectures. Finalement, c'est pour ces creuses, quoi. C'est aléatoire. Et donc, c'est pas comme ça qu'on mène un pays, de mon point de vue. Et c'est quelque chose qui lui sera reproché. Lors des élections, bien sûr.
J'ai lu l'histoire de votre mouvement, évidemment, de manière très succincte, en mettant deux étapes. Avant le 7 octobre, manifestation, mobilisation contre la réforme judiciaire. Et
avant,
après...
Non, Bernard, on a commencé avant. Le mouvement a été lancé...
Oui, avant le 7 octobre.
Non, à l'été 2020, au moment du corona, contre toutes les manifestations à Balfour, contre la corruption. C'est à ce moment-là que s'est créé le collectif.
Vous allez encore plus dans mon sens. Donc, dès 2020, manifestation contre la corruption. Puis après, 2023, manifestation contre la réforme judiciaire, 7 octobre, manifestation pour le retour des otages et la tenue d'élections anticipées. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas un seul et même mouvement et qui porte un nom ? Nous voulons le départ de Benjamin Netanyahu. Finalement, après tout le reste... C'est sûr que vous avez des raisons de vouloir le départ de Benjamin Netanyahu, mais finalement, votre mouvement, c'est demander le départ de l'équipe dirigeante avec les religieux, avec les sionistes religieux, et de demander le départ de cette coalition.
Bah, c'est une lecture raccourcie. C'est-à-dire qu'en effet, si on veut tout synthétiser, on peut arriver à cette formule « tout contre Bibi », effectivement, mais dans la vision des gens qui ont été engagés dans les différents mouvements de contestation, au départ, je rappelle juste qu'on a un Premier ministre qui est une première, contrairement à Olmert, par exemple, qui est mis en examen dans 3 affaires et qui démissionne pas. Qu'on découvre par ailleurs, émerge par ailleurs, l'affaire des sous-marins, dont on a entendu les conclusions préliminaires actuellement, où Netanyahu a 100% tort. Donc on n'a pas eu tort de reprocher et d'attaquer Netanyahu. Donc c'est quand même lui au cœur de l'affaire des sous-marins, c'est quand même lui au cœur des affaires de corruption. Donc, je voulais, oui, d'accord, mais ce n'est pas juste lui ce qu'il est. C'est lui ce qu'il fait, ce qu'il représente, et la façon dont il corrompt l'État. Alors, je voudrais rajouter un point, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est manifesté, à chaque fois qu'on s'est levé, on a gagné. Il est parti en mai 2020. Le fait qu'ensuite Bennett et Lapid n'aient pas réussi à maintenir à contenir et à garder le pouvoir, c'est une autre chose. Ça dépend des deux et pas de nous. Mais nous, il est parti à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne reste rien, mais absolument rien de la réforme judiciaire qui était finalement un changement, une rupture avec la démocratie traditionnelle. Donc, bon, il est terminé le 7 octobre, donc on ne peut pas dire ce qu'il aurait pu avoir, mais entre-temps, ça a été balayé par la Cour suprême. Donc, ici, c'est dur, on souffre, mais ce n'est pas juste contre Bibi, c'est contre les actions qu'il mène et la façon dont on analyse, on comprend la façon dont il veut changer le régime de ce pays. Vous savez, tous les mois, vous avez des cadres et des ministres et des députés qui partent voir Orban en Hongrie. Tous les mois. Des voyages, des séminaires, etc. Regardez les agendas des ministres et des députés. C'est incroyable de voir la formation tout à fait accélérée qu'ils ont en matière de basculement d'une démocratie en démocratie libérale. C'est ce qui est en train de se passer. Donc on est contre Bibi, mais on est contre fondamentalement ce qui est en train de se profiler de façon visible ou invisible ou souterraine. C'est la transformation du régime israélien, du régime démocratique israélien.
Alors, je pense que peut-être votre langue a fourché parce que vous voulez dire, vous avez dit de démocratie à démocratie libérale.
Moi, j'ai plutôt l'impression illibérale.
Voilà, c'est ça, c'est que nous sommes dans un régime aujourd'hui en Israël de démocratie libérale.
C'est ça.
Bibi anti-démocrate. On sait bien que s'il y a des élections demain, il partira. Il n'y aura pas de coup d'État, il n'y aura pas de putsch. La question se pose sur la démocratie libérale, c'est-à-dire le pays tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Oui, bien sûr. À partir du moment où vous reniez dans une seule main le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, vous n'avez plus de démocratie libérale. C'est ce qui s'est passé en Pologne. Vous n'avez plus de liberté de la Cour suprême. Donc oui, ça s'appelle un changement de régime.
Une dernière question. La pause estivale de la Knesset. Tout le monde a fait une pause, et la Knesset fait une pause. Le problème, c'est que c'est plusieurs mois. C'est un scandale pour vous ?
Ouais, c'est scandaleux. C'est scandaleux, évidemment. Jamais depuis l'histoire, jamais il y a une période estivale aussi longue dans toute l'histoire de l'État d'Israël. C'est une honte absolue. Ce qui nous permet de penser qu'effectivement, durant ces 3 mois, il ne va pas chômer et que il y a un certain nombre de choses qui risquent d'être enclenchées. Et notamment le fait qu'on se retrouve en guerre avec le Nord. C'est un peu mon sentiment et le sentiment de beaucoup de gens ici, c'est qu'on va au casse-pipe dans le Nord. Parce que ça ne se fera pas tranquille, la fleur au fusil, il y aura des morts, beaucoup de morts, et une déstructuration du Nord du pays, c'est pratiquement évident. Et ils nous emmènent là-bas, ils nous entraînent là-bas.
Excuse-moi de vous dire quelque chose d'horrible, David, mais c'est une destruction de tout le pays. Parce que le Hezbollah ne va pas attaquer que dans le Nord. Le Hezbollah a la capacité de faire sauter n'importe quelle raffinerie.
Oui, bien sûr.
À Dieu ne plaise, évidemment, mais à des capacités militaires qui ne sont pas celles du Hamas.
Non, on est clair. Bien sûr.
David Benichai.
Je suis d'accord.
David Benichai, vous êtes l'invité de Chronique pour la paix. Vous qui avez créé ce mouvement qui s'appelle les démocrates mobilisés, avec tout un groupe de francophones israéliens qui sont engagés donc dans le combat de contestation, tel que vous venez de l'illustrer. Je vous remercie d'avoir été notre invité. Merci à vous. Bonsoir, David Benichai.
Merci, Bernard.